Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal.
Bonjour à tous, bienvenue dans Le goût d'entreprendre. Avant de devenir entrepreneur, on peut aussi commencer sa carrière par l'apprentissage. C'est un excellent moyen d'entrer dans le monde du travail. Mais le Covid a quelque peu freiné le processus. Le ministère du Travail a lancé un plan pour aider les entreprises et maintenir l'apprentissage. Nous en parlons avec Michèle Raymondis, la présidente du CFA de Blagnac. Bonjour Michèle Raymondis.
Bonjour.
Bienvenue à vous sur notre antenne dans l'émission Le Goût d'Entreprendre. Vous êtes aux commandes d'un énorme paquebot, le CFA de Blagnac. C'est le plus important d'Occitanie. 1200 apprentis y sont formés chaque année?
Nous avons atteint jusqu'à 1700 apprentis il y a 3 ans. Donc une importante chute due justement, je pense, à la réforme de l'apprentissage, puisque maintenant l'apprentissage peut être dispensé également par l'éducation nationale.
Donc là, jusqu'à aujourd'hui, il y avait beaucoup de demandes de la part des entreprises, des restaurateurs, des hôteliers.
Oui, jusqu'à ce jour, vous voyez, tous nos apprenants arrivaient avec un contrat en poche. Et je peux juste des chiffres de cette semaine. À aujourd'hui, on a en demande de préinscription 101 préinscriptions en cuisine, hôtellerie, restauration, et c'est seulement 7 entreprises disposées à prendre un apprenant.
C'est complètement inédit pour vous?
Ah, totalement, totalement, et ça nous fait très très peur.
Ça vous fait peur, c'est-à-dire que vous risquez de vous retrouver avec énormément de jeunes en attente d'entreprise? Sans
oui,
contrat.
Et puis, sans contrat et encore plus craintif, puisque suite à la réforme, donc l'éducation nationale dispense maintenant des formations en apprentissage. Par le passé, on avait simplement comme concurrents, entre guillemets, les lycées hôteliers. Mais maintenant, les lycées hôteliers vont pouvoir dispenser donc la formation en alternance.
Alors, ça veut dire quoi concrètement, Michèle Raymondis, que les CFA sont menacés?
Ah oui, 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 parce que c'est vrai que l'éducation nationale est une image qui conforte les parents. Et j'ai très, très peur justement que, en cette période suite au Covid, les apprenants n'ayant pas donc d'employeur pour débuter leur alternance se tournent justement vers l'éducation nationale qui dispensera sous forme d'apprentissage, mais vraisemblablement pas en contrat, donc plutôt sous forme de lycée hôtelier pour ce qui est de notre partie.
Parce que reprenons l'histoire des CFA depuis le début. Qui vous finance aujourd'hui?
Alors là aussi, c'est un très très grand changement. Les financements donc apprentissage étaient financés par la subvention région, qui donc nous donnait un coût apprenti, nous disons. Mais de nos jours, donc toute la contribution formation est collectée donc par France Compétences, qui distribuera donc aux OPCO, les OPCO étant les organismes de branche, qui ont eux-mêmes donc calculé un coût apprenti. Et là, nous aurons un coût apprenti, mais vraiment, il faudra aller chercher notre chiffre d'affaires, puisque le coût correspondra au nombre d'apprentis que nous aurons.
C'est ça.
Donc, passé, on avait notre subvention région, mais on pouvait démarcher les entreprises pour collecter une quote-part de leur taxe d'apprentissage.
Ce qui n'est donc plus le cas aujourd'hui.
Ce n'est plus le cas. Voilà. Nous avons un coût apprenti et qui, en plus, en cas de rupture, sera proratisé au temps de présence au CFA.
Alors, quelle est la solution pour vous aujourd'hui? Il faut que vous puissiez continuer
La solution, c'est vraiment d'essayer de recruter, de jouer sur notre image d'excellence pour continuer à avoir pratiquement le même nombre d'apprenants. Et une idée que l'on travaille, c'est de développer la formation continue.
La formation continue, donc auprès d'un public d'adultes?
Oui, auprès d'un public d'adultes, puisque d'autant plus qu'après la période du Covid et malheureusement le chômage qui se profile à l'horizon, nous aurons, je pense, beaucoup de reconversions de situation et au travers de formations courtes dans des établissements comme le nôtre, ils pourront éventuellement changer radicalement de compétences et se diriger vers d'autres voies.
Oui, là, c'est une piste de réflexion. Vous pensez à quel secteur d'activité, par exemple, des formations
courtes ?
Nous,
on restera toujours dans l'hôtellerie-restauration. Ouais, c'est pour ça que donc, on ajoute, vous voyez, l'année dernière, on a ajouté un CAP primeur. Je pense développer moi la formation sur le service à la personne puisqu'on a des plateaux techniques qui nous le permettent. On a un BP gouvernante, donc on peut en ajoutant un lit médicalisé former des gens au service à la personne. Je pense que c'est quand même un secteur qui continuera à évoluer et à progresser.
Tout à fait, il y a beaucoup de demandes effectivement. Alors il y a quelque chose de Michel Raimondis qui est quand même assez paradoxal puisqu'on dit que l'apprentissage c'est une filière d'excellence, que la grâce à l'apprentissage, on trouve un emploi, que c'est un tremplin vers l'emploi. Et vous êtes bloqué?
Oui, voilà, on est bloqué parce que je pense que si maintenant c'est vrai que l'image de l'apprentissage acquiert ses lettres de noblesse,
tout à fait.
D'autant plus parce que, comme vous venez de le dire, l'employabilité à la sortie, ce qui va faire défaut maintenant, c'est le nombre d'entreprises susceptibles et qui ont désireuses d'embaucher un apprenti. En début de formation.
Oui, tout à fait. Alors, le gouvernement donc, a annoncé la mise en place d'aides financières. Hein.
C'est un peu timide, ça va dans le bon sens, mais ce qui, moi, me gêne un peu, c'est que l'on parle toujours des premières années, des entrants, mais les CAP, les BTS, il n'existe rien pour la seconde année.
Autre conséquence hein, du Covid sur l'activité du CFA, vous avez dû vous aussi vous adapter, accélérer la digitalisation avec des offres à distance.
Oui,
c'est quelque chose que vous allez poursuivre ?
Ah, bien évidemment. De toute façon, on ne peut pas ne passer sous silence cette future formation. Alors, d'un côté, bon, cette crise aura été salutaire pour nous puisque nous étions justement pour parler et de mettre en place cette digitalisation, mais avec une très très forte réticence des formateurs que je félicite par ailleurs, qui ont su du jour au lendemain trouver de leur propre chef les meilleures plateformes et qui ont assumé donc la formation. Mais ça va me permettre donc, au travers de leur expérience surtout, de trouver peut-être la formation la plus simple, la plus efficiente. Voilà, donc je suis vraiment ravie. On ne peut pas dire ravie, mais ça a été un mal pour un bien pour un mal.
Disons qu'effectivement, vous avez su switcher, hein, vous remettre en question très très rapidement.
Ah oui, là, je félicite mes formateurs parce que c'est vrai que ça a été vraiment très 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 opérationnel. Bon, il y a eu un petit couac, c'est que c'est vrai que tous les apprenants n'avaient pas les outils informatiques pour pouvoir suivre exactement et correctement ces formations. Et je dois dire, et je les félicite aussi, qu'il y a beaucoup eu d'échanges de cours et d'exercices au travers de photos téléphonées, enfin de photos prises par les smartphones. Vous imaginez ce que cela représente.
Tout à fait, en termes de travail et de qualité
ouais.
Également.
Ah oui.
Ça va vous permettre, cette digitalisation, hein, mise en œuvre, de travailler peut-être autrement, d'ouvrir vers de nouvelles formations?
Oui. Je pense que nouvelle formation, je ne sais pas encore, mais nouvelle forme de formation, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et puis, je suis convaincue aussi que ça, le télétravail offre une qualité de travail, justement, parce que bien étudié, bien encadré, c'est quand même une forme de travail agréable à la maison. Mais voilà, nous, le souci, c'est que tous nos apprenants aient les moyens techniques pour poursuivre cette formation à distance.
Bien sûr.
Je vois que d'ailleurs, nos gouvernants y ont pensé et annoncent donc la possibilité d'un ordinateur pour chaque apprenant. Voilà, au travers de quel financement, là aussi, on est dans l'expectative. Par le passé, c'était bien la région qui nous aidait, enfin qui aidait les apprentis sur ce sujet. À ce jour, les OPCO nous ont informé qu'il en serait de même, mais on n'en a pas encore eu la preuve.
Vous attendez les
précisions. Et là, il faut vraiment qu'il y ait un effort de ce côté-là.
Oui, tout à fait. Mais entre nous, rien ne remplacera tout de même la pratique. Quand on parle de formation en hôtellerie-restauration à distance, c'est quand même un peu compliqué, il faut l'avouer.
Oui. On le voit, puisque nous avons repris les cours dès ce début de semaine, et les apprenants sont vraiment ravis d'abord de retrouver et d'échanger, et puis nous de les soutenir, parce qu'il y en a certains qui ont vécu des situations assez dramatiques et difficiles. On ne peut pas évaluer les difficultés qu'ont rencontrées tous ces jeunes.
Oui, tout à fait. Ce n'est pas toujours si simple de travailler à distance. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Michel Raymondis, quel est le conseil que vous donnez aujourd'hui aux familles? Parce que je sais que vous organisez régulièrement des journées portes ouvertes. Alors là, pour le coup, ce sont des journées portes ouvertes à distance. Mais les familles viennent vous rencontrer. Quel conseil pouvez-vous leur donner aujourd'hui?
Alors c'est surtout qu'ils se mettent bien en tête qu'après, avec un CAP, un BTS, enfin une formation en alternance et au travers de l'apprentissage, l'employabilité est
automatique.
Définitive, quoi.
Oui.
Voilà, alors que, je ne vais pas critiquer, mais c'est vrai que les universitaires, quand ils arrivent dans une entreprise et qui disent « je vaux tant », c'est vrai qu'on n'a pas à leur montrer trois fois les choses, mais tout le pratico-pratique, ils ne le connaissent pas.
Ouais,
et ce que cherche un employeur de suite, c'est l'efficacité.
C'est ça, effectivement. Et quel est le conseil que vous pouvez donner aux entreprises aujourd'hui, qui sont frileuses, vu le contexte?
Oui, parce que c'est aussi du travail l'entreprise. Moi, nous avions travaillé avec le MEDEF justement sur les demandes à faire remonter à nos politiques pour favoriser et accélérer donc l'apprentissage. Et en réflexion, moi, j'avais suggéré aussi qu'on diminue les charges du maître d'apprentissage, parce que le tuteur, il coûte cher, quoi, à l'entreprise. Le temps qu'il passe à former l'apprenti, c'est du temps détourné pour l'employeur.
Tout à fait, oui. Et donc, le conseil que vous donnez aujourd'hui aux entreprises, c'est de venir vous voir, c'est d'échanger.
D'échanger. Alors, on a peut-être une aubaine, c'est que malheureusement, tous ces employeurs sinistrés, notamment dans la restauration et l'hôtellerie, vont peut-être éviter de prendre un salarié à temps plein, mais là, ça c'est encore aussi au détriment du chômage, et embaucheront des apprentis. Je ne vois pas comment va se profile l'avenir, parce que là, ça peut être ou tout l'un ou tout l'autre pour l'apprentissage. Bon, bien évidemment, je souhaite que l'apprentissage soit privilégié.
Voilà, et soit valorisé.
Valorisé, ça, c'est, on en a vraiment besoin en France. Il suffit de se comparer au système allemand. Vraiment, l'apprentissage a eu une très, très mauvaise image. Pourquoi? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Et puis moi, j'ai aussi quelque chose à ajouter, parce que je viens de le constater, c'est que nous rencontrons beaucoup chez nos apprenants cette idée de dire « je suis sortie du milieu scolaire ». Il y a vraiment beaucoup de gamins qui n'aiment pas le système scolaire, ne s'y sentent pas à l'aise, et dans l'apprentissage, ils se révèlent. Ils n'ont plus l'impression d'aller à l'école.
Ouais, ouais.
D'abord, ils ne sont pas à l'école puisqu'ils ont un contrat de travail. Mais ça, je crois que c'est fondamental, et il faut axer sur cette image que c'est d'abord un diplôme, et puis c'est un travail avec une rémunération, et c'est plus le système scolaire.
Et c'est une belle façon de reprendre confiance en soi.
Oui, beaucoup se sentent à l'aise et reprennent confiance en eux, et puis on essaye, nous, au CFA, d'accentuer cette prise de conscience.
Michel Raymondis, on peut vous retrouver facilement alors sur votre site internet et s'inscrire aux journées portes ouvertes.
17, 18 et 19 juin, donc voilà, j'espère que nous aurons beaucoup de contacts et qu'à la suite, beaucoup d'inscriptions, parce qu'il en va de la survie de notre CFA. Et compte tenu de sa notoriété et de son savoir-faire, il serait vraiment dommage que nous soyons en péril.
Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et merci à vous de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radioprésence.com.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'Entreprendre. Le vélo pourrait sortir gagnant de la crise liée au Covid-19. Les initiatives se multiplient pour nous inciter à pédaler. Les réparateurs et vendeurs de vélos croulent sous les demandes. Nous en parlons avec Pierre Lannefranc de Monsieur Pignon, Madame Guidon à Toulouse. Bonjour Pierre Lannefranc.
Bonjour.
Prime à l'achat, réparation des vélos, ville réservée aux cyclistes, il semblerait que l'on redécouvre le vélo, Pierre. Vous l'avez remarqué ces dernières semaines ?
Oui, effectivement, après cette période de confinement, on a une grosse demande. Alors habituellement, le mois de mai et le mois de juin, qui sont enfin, des mois de beau temps, sont un mois de forte activité pour nous. Mais c'est vrai que du coup, avec l'obligation par exemple de porter le masque dans le métro ou les mesures qui ont été faites par le gouvernement, on a une demande, entre guillemets, d'un nouveau public qu'on n'avait pas l'habitude de voir à la boutique, qui vient liée à toute la circonstance qu'on connaît.
Ouais.
Et qui se met au vélo.
Et voilà, qui se met au vélo, un nouveau public. Alors, c'est qui ce nouveau public ? Ce sont des urbains qui avaient l'habitude, hein, on le disait, de prendre les transports en commun.
Voilà, c'est ça, transports en commun, ou même certains à pied, mais qui, du coup, redécouvrent un peu les joies du vélo, ou, grâce aux mesures gouvernementales, se disent, tiens, pourquoi pas, je vais essayer au moins d'y aller en vélo.
Alors, ces mesures gouvernementales, c'est coup de pouce, c'est ça, coup de pouce vélo. Il y a une soixantaine de millions d'euros hein, qui ont été débloqués par le gouvernement au niveau national. Comment ça se répercute au niveau local ? Déjà, peut-être pour vous, vous allez me dire un surcroît d'activité, mais pour nous, peut-être qui souhaitons faire réparer notre vélo, il y a une prime, il y a une aide ?
Alors voilà, en fait, c'est une aide qui permet de remettre votre vélo en sécurité, donc un vélo dont vous êtes déjà en possession, c'est pas une aide à l'achat, c'est une aide à la réparation et à la remise en sécurité du vélo, qui est de l'ordre de 50 euros hors taxe, donc vous avez toujours la partie de TVA en reste à charge, et l'aide vous aide jusqu'à ces 50 euros maximum pour remettre votre vélo en sécurité. Pour un particulier, c'est assez simple. Il suffit d'aller s'enregistrer sur un site qui s'appelle Coup de pouce vélo. Ça génère un numéro d'enregistrement, puis après de venir nous voir en boutique ou surtout de nous appeler avant pour prendre un rendez-vous pour la réparation. Et ensemble, après, on fait un devis et si ça convient à la personne, on lui répare son vélo et sera déduit en finalité les 50 euros du coup de pouce vélo.
D'accord. Et vous êtes réglé directement donc par le ministère?
Voilà, enfin...
c'est plus compliqué que ça, c'est ça.
C'est Roseau et qui gère ça. Donc on espère effectivement être réglé directement par eux.
Il y a des délais, Pierre, pour faire réparer son vélo?
Alors, d'habitude, sur le mois de mai, on a toujours un peu de délai. Là, on a à peu près une semaine de plus de délai qu'à l'habitude. C'est-à-dire que là, pour toute réparation, on a 3 semaines à peu près de délai pour faire réparer son vélo. Vous ne laissez pas le vélo pendant 3 semaines. Juste les prochains rendez-vous qu'on prend sont dans 3 semaines. Et après, nous, dans notre société, sous 24-48 heures, on vous répare votre vélo.
Donc, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de demandes.
Voilà, exactement.
Parlez-nous de votre entreprise, Pierre. Monsieur Pignon, Madame Guidon, comment vous avez eu cette idée ? Pourquoi vous êtes-vous lancé ?
Bon, c'est un peu du pur hasard. En fait, j'avais un tout autre métier avant la crise de 2008 et le licenciement de 2008 fait que j'ai eu le temps de réfléchir à ce que je voulais faire et ce que je voulais développer. Dans un premier temps, j'ai commencé à retaper un vélo pour moi et à le repeindre pour moi. C'était juste pour mon propre plaisir. Puis de fil en aiguille, je l'ai fait pour ma compagne et puis je l'ai fait pour un ami et par la force des choses, je me suis dit qu'il y avait peut-être un marché à prendre là-dedans. Et du coup, en 2010, on a ouvert la boutique à Toulouse, dans laquelle on proposait principalement de la restauration et de la rénovation d'anciens vélos, surtout en faisant de la peinture, du coup, de vélos, et de là découler tout ce que souhaitaient les personnes derrière. On offre du coup plusieurs prestations. On a des personnes qui veulent retaper leur vélo et le remettre parfaitement à l'identique. Un vélo Peugeot de 76 qui est vraiment parfaitement remis à l'identique. Ou d'autres personnes qui veulent l'améliorer tant sur le plan esthétique ou le plan technique.
D'accord. Donc vous pouvez customiser les vélos et vous pouvez complètement les, voilà, les réparer, les remettre en état. Vous vendez aussi des vélos ?
Voilà, alors du coup, la première partie, c'est vraiment la partie peinture et restauration, rénovation d'anciens vélos. On a une deuxième partie de notre activité qui est vraiment de la réparation quotidienne. Si vous crevez ou vous avez un problème de frein pour n'importe quel vélo, à la fois un vélo qui est acheté dans notre boutique ou à la fois un vélo qui viendrait d'ailleurs. Et notre troisième partie est une vente de vélos neufs. On fait pas du tout d'occasion, on fait que du neuf. On a toute une gamme de vélos qu'on a pour la plupart développés dans notre boutique. Donc ce sont vraiment nos propres vélos qui sont tous par contre des vélos de ville, des vélos utilitaires pour se déplacer. On fait pas du vélo sportif, on est vraiment du vélo pour aller faire ses courses et pas du tout faire la course.
Faire du vélo, c'est bon pour la forme, c'est bon pour le moral, Pierre, hein, on le voit. Alors quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui aujourd'hui veulent se mettre au vélo ou s'y remettre ?
Oh, on le dit souvent à la plupart de nos clients, beaucoup de nos clients hésitent à acheter un vélo parce qu'ils disent qu'ils vont pas forcément s'en servir tous les jours. Et en soi, ils ont raison, quand c'est l'hiver qui fait 3 degrés et qu'il pleut, on n'a pas forcément envie de faire du vélo, et moi le premier. Du coup, on leur dit, achetez le vélo et utilisez-le que quand vous en avez envie. Et vous allez voir, enfin, surtout à Toulouse où il fait beau très souvent et chaud très souvent, c'est un peu chauvin de dire ça, mais c'est vrai. La plupart de nos clients l'utilisent 9-10 mois dans l'année et au bout de 2-3 ans se mettent à l'utiliser quasiment tous les jours, s'équipent un peu plus pour l'hiver, mais de fil en aiguille, ils se mettent à l'utiliser de plus en plus. Donc au final, ça se fait de manière assez naturelle.
Donc le vélo appelle le vélo.
Voilà, exactement.
Est-ce que vous avez passé des partenariats, par exemple, avec les acteurs touristiques locaux pour développer les balades à vélo ?
Non, pas du tout. On n'est pas trop sur ce créneau actuellement. Il n'y a pas une forte demande dans notre secteur et c'est plus dans d'autres secteurs qui sont de la location de vélo. Mais c'est un métier qui est différent du nôtre.
C'est différent.
Donc
ouais.
c'est pas quelque chose qu'on
voilà,
a développé.
Tout à fait, tout à fait. Vous n'êtes pas dans la location de vélo.
Voilà, pas du tout.
On pourrait reparler de votre métier aussi, réparateur de vélo. C'est un métier qui semble en tension, mais ces derniers mois, lié à la période que l'on traverse. Est-ce qu'on manque de professionnels?
Alors, nous, on est dans un développement qui est fort actuellement et on réfléchit à l'embauche d'une nouvelle personne sans que ça soit acté pour l'instant. Mais pour en avoir discuté avec plusieurs de mes confrères, effectivement, il n'est pas forcément évident de trouver des personnes formées et déjà qualifiées. Bon, c'est un métier qui est loin d'être en tension, mais effectivement, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui est déjà formé.
Qui est déjà formé ? Comment on se forme alors à ce métier
Alors, il existe une formation qui s'appelle le CQP technicien cycle et il existe aussi un CFA, si je dis pas de bêtises, qui est dans cette même idée de technicien cycle, qui sont les prémices d'une réparation en boutique sur lequel on apprend la base et après c'est principalement sur le tas que la formation se finit.
Voilà, c'est ça. Si on fait un passe par un CFA par exemple, on peut effectivement faire valider son diplôme.
Voilà, exactement.
Et vous pensez que c'est un métier qui a de l'avenir ?
Oui, en tout cas en ville, le vélo continue à se développer énormément. Alors, Toulouse, dans une moindre mesure, mais par exemple, on l'a vu à Paris avec toutes les grèves qu'il y a eu courant décembre, le vélo a complètement explosé. Les gens ne pouvaient plus prendre le transport en commun. Et dans Paris, c'est vraiment quasiment le seul moyen de transport pour la plupart des gens. Et la demande a explosé. Sur Toulouse, bon, on a été moins impacté par tout ce qui était grève en décembre, mais il y a quand même une demande qui grandit au quotidien, tant d'un point de vue écologique où les gens préfèrent prendre leur vélo que la voiture, mais aussi d'un côté pratique pour du trajet en centre-ville, ça va plus vite et c'est souvent bien plus pratique pour la plupart des gens.
Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait donner davantage de place aux cyclistes ? C'est un grand débat,
oui.
Hein, c'est un vaste
oui,
débat.
Oui, non, bah, forcément, j'ai prêché pour ma paroisse, mais oui, bien sûr, ça serait bien de donner plus de place aux cyclistes ou d'aménager, par exemple, les pistes cyclables de manière logique, qu'elles ne s'arrêtent pas net et méchant à certains endroits sans que le cycliste sache où aller. Après ça, c'est toujours facile à dire, mais c'est jamais forcément évident à mettre en place suivant les situations de chaque ville et chaque endroit. Mais c'est sûr que ça serait intéressant de développer cet acte-là.
Comment vous voyez évoluer votre société, Pierre, dans les années qui viennent? Vous avez une autre boutique, hein, c'est ça, à Bordeaux?
Voilà, exactement. Il y a 3 ans maintenant, 4 ans même, pardon, on a ouvert une deuxième boutique en centre-ville de Bordeaux qui reprend exactement les mêmes principes que ce qu'on fait du coup sur Toulouse, qui sont principalement du coup la rénovation d'anciens vélos, réparation et vente de vélos neufs. On a ouvert du coup cette boutique avec beaucoup d'énergie. Actuellement du coup on est toujours dans une phase de croissance sur la deuxième boutique de Bordeaux. Pour l'instant on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. 2 boutiques c'est beaucoup de temps à gérer. On espère que tous les deux vont croître. Notre idée n'est pas de devenir une multinationale avec 400 boutiques parce que ça sera un tout autre métier. On aime bien être sur des petites structures avec un relationnel avec les gens, avec nos clients, qu'on a certains très réguliers et passionnés de vélo avec lesquels on échange beaucoup et aussi avec d'autres personnes qu'on voit de manière moins régulière mais qu'on aide au quotidien juste pour pouvoir se déplacer. Et on veut rester sur une structure à petite échelle pour justement garder ce relationnel avec nos clients.
Voilà, ça c'est dans votre ADN en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Bon écoutez, on va terminer sur quelque chose de très positif pour le vélo, pour la nature aussi et pour la santé. Le message que vous pouvez faire passer aujourd'hui à ceux qui hésitent encore à soit acheter un vélo ou réparer leur vieille monture qui se trouve au fond du garage?
Ben, n'hésitez pas. Y a des fois, on se demande vraiment si on va y arriver ou si on veut pas y arriver à venir tous les jours en vélo au travail ou à se déplacer. Le vélo, c'est vraiment très pratique. Ces temps-ci, il fait très beau. Y a des fois, il suffit juste de regonfler les pneus. On retente de faire du vélo. Ça ne s'oublie jamais. C'est vraiment pas un mythe. Ça ne s'oublie pas de faire du vélo. Et c'est très, très facile de s'y remettre. Et ça apporte un côté plaisir dans un déplacement qu'on n'a jamais quand on prend le métro ou qu'on n'a jamais quand on prend la voiture.
Merci beaucoup Pierre Lannefranc. Vous nous rappelez l'adresse de votre site internet?
Donc c'est monsieurpignonmadameguidon.com et nous sommes au 32 rue des Lois à Toulouse.
Merci à vous également de nous écouter. Vous nous retrouvez en podcast sur notre site internet radioprésence.com.